hombre de Guzmán y Casado de González. Se refiere totalement à cette
histoire. Moi, c'est l'une des compagnies au Cassandra. Je rencontre l'enfant Mélanie et deux, mais précisément trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Okapi et l'émission Parole aux auditeurs pour vous tenir compagnie. Nous sommes dans votre espace d'échange et de partage sur tout ce qui vous préoccupe. Nous nous intéressons avec vous ce mercredi 21 juillet 2010 aux animaux, appelés, etc. La RTC en possède quelques-uns qui sont dans les différents parcs nationaux à travers le pays. Nous pouvons citer l'Okapi, les rhinocéros blancs, les chimpanzés nés, appelés communément bonobo, les gorilles de montagne et des plaines, les éléphants et autres. Notons que ces espèces sont menacées d'une manière ou d'une autre. On se rappellera que le 21 juin dernier, un citoyen chinois a été intercepté à l'aéroport international de Ndili avec en sa possession plus de 80 pointes d'ivoire, ce qui revient à dire qu'environ 40 éléphants ont été tués pour se procurer ces ivoires. D'après l'Institut congolais pour la conservation de la nature, l'ICCN, à ce jour, dans le parc de la Garamba, le nombre des éléphants dépasse même pas 3000 et on note une disparition des rhinocéros blancs. Plus de 400 hectares de la réserve communautaire des gorilles de Sarambwe, sur un total de 900 hectares que compte les sites du parc national de Virunga, situé en territoire de Rutshuru, à la frontière avec l'Ouganda, à plus de 90 km de Goma, sont actuellement menacés par les braconnages et autres activités humaines. Et d'après le rapport de l'ONG internationale Objectif Brousse, qui est très active dans le secteur. Plusieurs ONG qui travaillent dans le secteur, ainsi que l'Institut congolais pour la conservation de la nature, pointent du doigt quelques militaires par décès, des groupes armés congolais étrangers, des ressortissants ougandais, ainsi que les populations locales qui se livrent au braconnage, l'exploitation forestière qui détruit l'habitat, surtout en ce qui concerne les gorilles. Vous avez la parole pour vous exprimer sur tout cela. Quelle est la situation de ces espèces chez vous et que faut-il faire pour les protéger? Parole aux auditeurs, on va recevoir de moment à l'autre dans ces studios, Monsieur Didier Louari, il est le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement et Conservation de la Nature. Cette émission est produite avec les concours des Titi Mputu qui est à la réalisation, assisté de Belia Mafinga, Nicole Ngaka est à la supervision et Jean-Claude Nsiala assure la mise en œuvre. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous.
Parole aux auditeurs par internet ca@radiookapi.net.
Voilà, notre invité vient à peine de faire son entrée dans ce studio, Monsieur Didier Louari, bonjour.
Bonjour, c'est Désiré Louari.
Désiré Louari, merci. Vous êtes le directeur du cabinet du ministre de l'Environnement et Conservation de la Nature. Ce mercredi, nous avons consacré l'émission Parole aux auditeurs, avec les auditeurs de Radio Capitale, bien sûr, hein, sur les espèces rares. Parce que d'après les quelques éléments que nous avons ici, on note d'abord en commençant par l'actualité du mois de juin, c'est un citoyen chinois intercepté à l'aéroport international de Ndili avec en sa possession 80 pointes d'ivoire, ce qui veut dire qu'au moins 40 éléphants ont été tués pour se procurer ces ivoires. Et de l'autre côté, dans le parc national de Virunga, ce sont plus ou moins 4 hectares qui sont aujourd'hui occupés, hein. C'est là, c'est le domaine des gorilles de Sarambwe, qui est, les domaines sont occupés par les ressortissants ougandais, il y a des braconnages qui s'y font, on accuse les éléments fardessés, les groupes armés congolais et étrangers. L'Institut congolais pour la conservation de la nature s'inquiète aussi du sort de bonobos qui disparaissent parce qu'ils sont aussi menacés, sans oublier les rhinocéros blancs, la population est en train de disparaître. Devant ces tableaux qui est inquiétant quand même par rapport à ces espèces rares, vous êtes au ministère de l'Environnement et Conservation de la Nature. Quelle est votre réaction d'emblée quand vous suivez tous ces rapports à gauche à droite?
Merci beaucoup pour votre invitation, pour pouvoir partager avec vous cette préoccupation qui est au cœur de l'action que le ministère mène aujourd'hui. Mm-hmm. Il s'agit vraiment d'une situation très déplorable, mais qui doit être située dans son contexte réel. Mm-hmm. Cette activité n'est pas le fait de la population. Comme vous l'avez évoqué, il s'agit des bandes armées, des éléments incontrôlés qui sont au centre de ce braconnage et donc qui nous cause énormément de soucis. Mais je pense qu'au fil de l'émission, nous allons pouvoir aborder les différentes questions pour apporter des éclaircissements et un aperçu par rapport à ce qui se passe au niveau du ministère en termes d'organisation, de réaction, d'anticipation par rapport à cette question.
Voilà, parce que les degrés, on a fait déjà plusieurs émissions hein, par rapport à ça, avec les six Congolais pour la conservation de la nature. Vous parlez des bandes armées, des groupes incontrôlés, mais au niveau du ministère, si ces bandes armées ont quand même la possibilité d'accéder dans ces réserves, d'accéder dans ces patrimoines, c'est que j'ai dit quelque part, il y a un problème au niveau de la sécurisation de ces zones.
C'est exact, mais ce problème ne remonte pas aujourd'hui. Ce problème remonte à il y a plusieurs années, lorsque nous étions en guerre. Donc depuis cette période, les bandes armées se sont installées, et je pense que vous suivez qu'actuellement, notre armée est en train de mener des actions intensives pour déloger l'ensemble de ces éléments à contrôle.
Voilà, il y a un auditeur qui est en ligne, c'est Mathieu qui est à Lubumbashi, qui va donner aussi son point de vue hein, et sa proposition sur ce qu'il faut faire pour protéger les espèces rares. Vous êtes très nombreux à vouloir réagir. Appelez-nous au 0411-890-6315. Ceux qui sont, qui nous écoutent sur Internet peuvent également réagir en nous envoyant un mail à pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs.
Mathieu, vous êtes à Lubumbashi au Katanga, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, M. Perrault.
Nous parlons de la protection des espèces rares. Quelle est votre contribution?
D'abord, M. Perrault, je vous remercie. Je sais que vous m'avez donné la parole. Je pense que nous condamnons à toute la dernière énergie. Je suis élu anarchiste et d'un protecteur légal de nos espèces animales. Deux autres qui montrent plus clairement que les journalistes, l'insécurité qui bat son plein dans notre pays. Nous avons besoin pour changer les mentalités. Surtout les services de sécurité qui sont stabilisés pour apporter ce pour à l'État. Comment est-ce que vous avez journalistes que souvent, les traiteurs sont mieux arrêtés par des refaires d'individus et tous autres animaux. Dans ce côté-là, il n'y a pas de service de sécurité. Quel travail qu'il faut pour aider le gouvernement? Ne suis pas la position partagée. Généralement, on nous a parlé des Chinois arrêtés à l'aéroport d'Indigny avec le poids du pouvoir. En tant que représentation de la presse, il y a trois mois, monsieur le journaliste, la presse française avait fait écho d'une arrestation de d'autres exploités à l'aéroport de Paris avec le délit en prévenant que le délit du Kassa. Il nous a dit, je n'ai pas de service d'antifraude ou de service pour barrer le chemin à ces gens-là. Comme vous pouvez le monsieur le journaliste, nous pouvons changer notre mentalité pour que le Congo aille en avant. C'est en fait de dépendance que fait monsieur le journaliste.
Merci, merci Mathieu. Hein, votre préoccupation, c'est de savoir l'arrestation des Chinois qui étaient interceptés à l'aéroport des Lilies en possession de 80 points d'ivoire. Quand est-ce qu'on va le présenter à la presse? Mais d'ailleurs, je vous informe qu'en dernière minute, on a appris qu'il sera expulsé du territoire national parce que c'est une atteinte à la sécurité nationale. On va en parler avec notre invité, mais vous demandez qu'il y ait assez de services d'antifraude pour surveiller les frontières, que les espèces ne puissent pas sortir. Merci Mathieu. Béni, au nord de vous, c'est Maurice qui est en ligne. Maurice, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, ainsi que bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Ok, parlez-nous de la situation des espèces rares dans votre secteur au nord de vous. Quelle est la situation?
Oui, la situation, ce que nous vous présentons, le tableau est vraiment rouge. Le tableau est rouge dans le sens où des espèces rares ont vraiment de sérieux problèmes qui ne sont pas suffisamment sécurisés. Le grand problème que nous sommes en train d'implorer ici, de déplorer d'ailleurs, c'est l'insécurité. Il faut que ces espèces ne puissent pas trouver vraiment leur compte dans ce pays. Parce que si on peut se rendre compte, c'est que ces espèces représentent pour notre trésor. Aujourd'hui, si déjà tous les États-Unis, la France et partout ailleurs dans le monde, pour venir au Congo, lorsqu'ils viennent au nord Kivu, lorsqu'on est au regard de ces espèces-là, ça fait quand même après des devises au niveau du pays. Mais lorsque ces espèces ne sont pas suffisamment sécurisées, c'est ce qui crée des problèmes, c'est ce que nous connaissons. C'est ce qui manque à gagner à l'État. Alors nous demandons à l'État congolais d'être sérieux, de prendre vraiment ses responsabilités et de voir l'utilité que ces espèces ont pour ce pays.
Merci Mauricio. Il faut que combattre l'insécurité. Kiyombamba, vous êtes à l'Ukassi au Katanga. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Nous parlons de la protection des espèces rares. Hein? Vous avez suivi les uns et les autres qui sont menacés, qu'il y en a qui disparaissent. On arrête les gens qui font les braconnages à gauche, à droite. Quelle est votre contribution pour qu'on parvienne enfin à les protéger, pour que cela profite à la nation congolaise comme l'a souhaité Mauricio?
Merci beaucoup. Moi, ce que je voulais éclairer tout simplement à l'opinion congolaise en général, c'est du fait de savoir qu'il y a quand même des services comme c'est l'ICCN, l'Institut congolais pour la conservation de la nature. À mon avis, je vois que l'ICCN est en complicité avec le soi-disant superviseur de différents sites touristiques. Parce qu'en voyant même le développement du pays, on descend aussi du tourisme. Je prends l'exemple de l'Égypte. L'Égypte a une source la plus importante de devises, mais autre que le tourisme. Voyons ici chez nous au Katanga, particulièrement à l'Isassi. Quand nous voyons au Katanga le parc national de Upemba et Kundelungu, vous allez voir que notre espèce rare qui était ici, que j'étais cité, l'éléphant, c'est forcé disparu. Pourquoi? Il y a une complicité. Vous allez voir que je y traverse le parc national de Upemba, de Kundelungu. Il suffit d'attraper une petite souris, vous êtes arrêté. Pourquoi on attrape pas les gens qui se livrent au massacre des différentes espèces rares? À mon avis, je voulais savoir, on parle qu'on a de la réalité, qui ne vont pas d'entendre parler de la réalisation au niveau de l'aéroport. Et que les journalistes de vous assurent qu'ici au Congo, il y a une certaine condition terrible. Quand il y a une réforme, il y a un remaniement aussi de la part des agents de l'ICCN, ministère de la Conservation de la Nature et Tourisme et autres. C'est un peu ça pour moi.
Merci, Kiombamba. Monsieur Désiré Louhaï, c'est bien, maintenant je prononce votre nom.
Merci.
Voilà, vous avez suivi les premiers auditeurs, hein, Mathieu, qui est à Lubumbashi, Maurice, qui est à Beni, et Kiombamba, qui est à Likasi. Ils sont inquiets par rapport à l'insécurité, bien sûr, qui fait, fait que ces espèces sont menacées. Mais là, il y a Mathieu qui a évoqué le problème de l'impunité. Il a demandé, qu'en est-il du Chinois qui a été intercepté avec 14 ans de pointe d'ivoire, qui représente presque 40 éléphants tués? À quel niveau se trouve ce dossier? À ces jours.
Bien, je voudrais d'abord saluer cette arrestation qui traduit la collaboration qui est en train de s'installer entre les différents services, au niveau de la lutte contre le braconnage.
Mmh.
Je peux vous rassurer que même sur terrain, il y a des mécanismes qui sont en train d'être mis en place avec les différents services de renseignement, civils comme militaires, en collaboration avec les autorités locales pour canaliser l'information et faciliter justement la lutte contre ces braconnages. C'est grâce à cette collaboration que nous sommes arrivés à neutraliser ces Chinois-là. Donc, je voudrais rassurer l'opinion que nous sommes conscients de l'ampleur de la situation et que les mécanismes et les moyens qui sont actuellement en train d'être mis en place devront déboucher très prochainement dans des solutions efficaces. Parce que vous savez, sur le terrain, vous n'avez pas affaire à des braconniers qui utilisent des flèches. Ce sont des bandes armées équipées lourdement. Et donc, pour y faire face, il faut une réaction, des ripostes appropriées. S'agissant de complicité au niveau de
des différents services qui travaillent dans le secteur.
Oui, je pense qu'il faut minimiser un peu cette question-là, dans la mesure où les braconniers et leurs complices sont des gens qui utilisent des moyens énormes. Aujourd'hui, je vous donne, par exemple, à titre indicatif, un kilo d'ivoire en Asie du Sud-Est vous coûte $800. D'accord? Donc, imaginez-vous ce que cela représente comme intérêt, et donc ces gens utilisent et mettent d'énormes moyens pour contourner les services actuels. Bon, moi ce que je voudrais souligner ici, c'est le fait que le braconnage n'est pas le fait des populations. c'est le fait des structures et des bandes organisées, armées, qui aujourd'hui nous obligent à organiser des ripostes conséquentes. C'est ce que l'opinion doit comprendre. Le gouvernement, le ministère de l'Environnement, l'ICCN sont en train de se réorganiser par rapport à cette question qui a été qui s'est développée à cause de la sécurité liée à plusieurs années de la guerre. C'est ce qu'il faut retenir à ces choses.
C'est-à-dire que le, si vous parlez de réactions appropriées pour les bandes armées, c'est-à-dire qu'il faut aussi discipliner, parce que dans le rapport que nous avons de l'ONG Objectif Brousse, il y a même les militaires FARDC qui sont aussi accusés dans le braconnage, pas seulement les bandes armées. C'est que les mesures doivent être au niveau de ce que s'il faut traquer les bandes armées, mais aussi les militaires FARDC qui doivent aller traquer les bandes armées parce qu'ils se retrouvent dans la même zone. Il faut aussi une discipline de ce côté-là pour éviter qu'ils soient cités, comme dans plusieurs cas que nous avons ici sur les braconnages, surtout en ce qui concerne les éléphants.
Absolument. Nous avons saisi à plusieurs reprises l'autorité militaire qui a initié des missions de judiciaires au niveau de l'armée pour neutraliser certains officiers qui sont identifiés aussi bien à la Salonga qu'à l'Est. Ils sont identifiés et la justice militaire s'emploie à les châtier, ça je peux vous
le garantir. Et le grand problème, c'est comme le cas du Chinois, si les gens s'inquiètent, vous avez suivi l'inquiétude des auditeurs, c'est qu'ils voudraient voir du côté du gouvernement des signaux qui peuvent convaincre. C'est par exemple quelqu'un est arrêté, il y a un procès, le procès aboutit, il est condamné. Plusieurs fois, quand on médiatise les procès de ceux qui sont en train de menacer les essais, c'est rare, ça va peut-être dissuader les autres, parce que dans le cas du Chinois, il a été expulsé. C'est là l'inquiétude de Mathieu et même de Kumbamba, il a été expulsé. Alors ils sont très inquiets. Est-ce qu'un autre ne va pas aussi faire demain pour dire, comme il n'y a pas eu de procès, je peux aussi être expulsé? C'est un peu ça qui inquiète les auditeurs, si vous suivez bien dans leur propos, par rapport aux mesures de lutte contre l'impunité en ce qui concerne ce domaine.
Mais ils ont raison de s'inquiéter. Mais ils doivent savoir que arrêter une personne avec des pointes d'ivoire à l'aéroport de Nsili, vous n'avez pas encore résolu le problème. Okay. Il faut mener des investigations pour remonter jusqu'à ses fournisseurs. Donc, à ce jour, les investigations vont dans ce sens-là. Il faut maîtriser tous les réseaux.
Mm-hmm.
Si vous arrêtez les Chinois, vous le jugez, vous n'aurez pas résolu le problème. Il faut remonter tous les réseaux. C'est ça qui se passe actuellement. On est en train de remonter, de mener des investigations pour remonter tous les réseaux.
Voilà. Jean-Claude, vous êtes à Lubumbashi et je suis l'invité, et tout ce que nous avons présenté comme tableau par rapport aux espèces rares, hein, ce qu'il faut faire pour les protéger, quel est votre point de vue?
Alors, moi je voudrais dire ceci, parce que maintenant au Congo, on a prôné la maximisation des recettes presque à tous les niveaux.
Mm-hmm.
Alors quand nous voyons par exemple nos parcs et autres où il y a des espèces un peu rares dans le monde, ce sont pratiquement des sites touristiques qui peuvent nous rapporter beaucoup d'argent.
Mm-hmm.
Alors, qu'est-ce que le gouvernement lui fait? N'y a-t-il pas moyen d'engager beaucoup de fonds pour renforcer la sécurité des espèces rares que nous avons ici?
Mm-hmm.
Comme ça, au retour, lorsqu'il y aura des touristes qui passeront, nous pouvons facilement récupérer cet argent.
Mm-hmm.
Comment le gouvernement veut maximiser des recettes, mais incapable de dépenser aussi pour organiser ce secteur-là.
Mmh.
Deuxième préoccupation,
mmh,
si nous parlons qu'il y a des militaires qui s'occupent de la sécurité de ces espèces-là, dans les parcs et autres, maintenant, lorsque nous découvrons par exemple qu'il y a braconnage et que nous avons des preuves, pourquoi ne pas sanctionner? Et même la sanction doit être au vu et au su de tout le monde. De sorte que ceux qui pourraient être tentés pour faire la même chose, quand ils verront leurs amis être punis, ils auront du mal à évoluer dans ce sens-là.
Mmh.
Et là, le mal ici chez nous, c'est qu'on parle de l'impunité, la tolérance zéro, mais nous ne verrons pas. Nous devons voir de sorte à décourager ceux-là qui ont tendance à se lancer dans la même voie. Je voudrais poser une question à notre invité.
Mmh.
Quel est le salaire qu'il donne à ces gens-là qui s'occupent de la sécurité, et même aux fonctionnaires de l'Institut national, je crois...
Pour la conservation de la nature, oui.
Mmh. Oui, voilà, de la conservation de la nature.
Mmh.
Est-ce qu'ils sont bien payés, de sorte qu'ils ne soient pas aussi tentés d'être en complicité avec ceux-là qui leur qui leur sentent avec de l'argent. Parce qu'on voit quand quelqu'un est mal payé et qui n'est pas rassuré de son primat, quand il voit l'argent, est-ce que cela peut satisfaire à ses besoins imminents? Voyez un peu, il est tenté facilement de prendre cet argent.
Merci, Jean-Claude.
Est-ce que sont-ils bien rémunérés et aussi la punition elle se situe à quel cadre? Pourquoi ne pas punir les gens aussi et au vu de tout le monde, de sorte à déclencher les autres? Qu'est-ce que le gouvernement fait? Engage-t-il des moyens pour par après récupérer lorsqu'il y aura des touristes en passage ici chez nous? Je vous remercie.
Merci Jean-Claude. Vous êtes à Lubumbashi au Katanga où vous me suivez sur le 95.8 MHz. Et nous rencontrons avec Kinshasa avec Seigneur Chom, je crois bien.
C'est moi.
Ok, vous êtes en ligne, on vous écoute.
Oui.
On a un problème avec votre ligne, hein. Peut-être qu'il vous faudrait changer de position et on va vous récupérer tout juste le temps que vous puissiez vous mettre dans une bonne position. Prenons d'abord Gabriel, hein. Nous rentrons au Katanga, à Kolezi. Gabriel, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour,
nous parlons de la protection des espèces rares. Hein. Vous avez suivi les tableaux qui a été dressé depuis le début de cette émission, qui sont menacés au Katanga. Vous avez aussi le parc. Il y a un auditeur qui a dit que les éléphants sont pas assez sécurisés dans le parc d'Upemba, mais quand quelqu'un s'hasarde à même écraser une souris, il est arrêté. Mais ceux qui suivent les éléphants sont laissés libres, tout ça. Quel est votre point de vue, Gabriel?
Selon mon point de vue, d'abord, on a constaté la disparition des espèces rares, ça dépend aussi de la présence des étrangers ici au Congo. Parce que ici au Congo, on a constaté que l'arrivée des Chinois ici des choses, parce qu'ils arrivent à tuer les animaux sans contrôle. Mais peut-être qu'il faut faire une fois que d'abord les choses coûtaient aussi 5 pics au contrôle des espèces rares. Alors, pour laquelle on coupe la télévision de façon de aussi, que les choses qui se mettent aussi aider l'État. Parce que l'État, il élabore des lois de l'État, tu vois, des espèces rares, mais encore une fois que la présence aussi des choses qui se mettent. Parce que, avant d'entrer d'abord dans les parcs, des forêts, vous pensez comme ça, il faut que la présence des choses qui se mettent aussi là, par exemple, ici au Katanga. Il faut avoir d'abord un document des choses qui se mettent pour être autorisé d'entrer. Des forêts différentes. Maintenant, il faut que les choses continuent à s'inscrire. Aussi, dans la présence de l'État, aussi, va aider aussi les choses continuent.
Voilà. Merci, Gabriel. Hein, vous préconisez l'implication des autorités traditionnelles, la complicité, bon, c'est l'implication aussi des communautés locales, hein, pour qu'on parvienne à sécuriser tout cela. Nous allons prendre Pichou. Pichou, vous êtes à Samina. Nous restons dans le secteur. Nous sommes au Katanga. Pichou, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Puisque on vous écoute, hein, par rapport à la protection des espèces rares, hein, qui sont un patrimoine commun de l'humanité.
Oui, moi, ma préoccupation, c'est que je suis en train de me plaindre, hein, par rapport à la sécurité et à l'impunité de notre pays. Parce que nous suivons à l'étranger, même dans notre pays, quand il y a un expatrié qui commet cet acte comme les Chinois là. On ne devait pas être pressé de l'expulser. Il fallait remonter comme les invités venaient de dire tantôt là qu'il fallait remonter les péchés qu'à atteindre les promoteurs ou les fournisseurs du Chinois. Mais moi je crois que ça n'a pas été le cas. Alors très souvent quand on explique quelqu'un comme ça, c'est comme si on veut toujours protéger protéger les promoteurs qui commettent des gaffes dans notre pays, dans des telles situations. C'est ça mon problème. Il fallait qu'on cherche les promoteurs qui ont fourni cette matière ou ces histoires aux Chinois et les finir. Parce que ce sont nos Congolais qui fournissent aux étrangers les histoires.
Merci, Fichu. Votre inquiétude de région aussi, celle de Mathieu, par rapport au dernier cas avec les Chinois, vous pensez que s'il y avait un procès, ça serait mieux de remonter plutôt que de l'expulser. On revient sur Kinshasa. De Paul, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour Pierre, bonjour l'invité.
Quelle est votre contribution à ce niveau?
Bon, je suis intervenu juste pour aller dans la même direction que l'invité qui a dit qu'il faudrait démanteler les réseaux. Mais quand on va pour démanteler les réseaux, il faut qu'on aille surtout les prévenus, pour lui poser des questions, connaître à qui il voulait vendre et qui lui a fourni tout cet objet-là. Comme ça, on pouvait bien avoir des gros poissons, comme on dit, et appliquer la tolérance zéro. Mais on vient de l'expulser, il est libre chez eux là-bas en Chine, peut-être il va dans un autre pays. Et c'est lui qui l'a fourniré ici en RDC. Il cherche d'autres personnes. Il va leur livrer encore les mêmes ivoires. Combien d'éléphants qui meurent, on ne sait pas. Peut-être 1000, peut-être 500, on ne sait jamais. Ce que moi je voudrais demander, c'est qu'on puisse organiser, on puisse faire des procès qui doivent être équitables et connaître à la fin les sorts réservés à ceux qui porte atteinte à la sûreté de l'État.
Merci, Depaul. Vous plaidez pour les procès, si tant est qu'il concerne le cas de Pointe d'Ivoire. Nous allons dans la province de l'Équateur pour prendre le dernier auditeur de cette série avant de redonner la parole à notre invité. Jacques, vous êtes à Badouli, puis en province de l'Équateur. Bonjour.
Bonjour aussi à l'invité. Je voulais intervenir en disant ceci. Il n'y a pas vraiment la sensibilisation, la campagne concernant les villageois. J'ai été une fois bien à l'Équateur, non? J'ai fait 2 mois dans un village, je mangeais des viandes. Donc la population villageoise est vraiment en cascade des animaux. Donc ce qui démontre qu'il n'y a pas vraiment la sensibilisation, la population ne sont pas informés. Les gens, les organismes qui sont censés protéger la nature, ils bouffent l'argent dans leurs bureaux climatisés, ils n'arrivent pas à aller sensibiliser la population. La population qui vit dans 80% sur la forêt, ils ne savent pas quoi faire. Et puis c'est là, la retombée sur les animaux, la nature. Voilà.
Merci, Jacques, vous préconisez la sensibilisation, qu'on puisse défendre à la base pour sensibiliser la population sur le rôle de ces animaux que nous appelons espèces rares. Dans quelques secondes, nous allons donner la parole à notre invité.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Louaï, vous avez suivi encore les auditeurs, si on peut reprendre Jean-Claude qui a appelé des Lumbashi, hein, et il plaide aussi pour les procès publics qui peuvent dissuader les autres qui peuvent chercher à commettre le même vue, mais il pose la question de savoir si les gardes parcs, par exemple, les agents de l'ICSN, tous ceux qui gèrent les secteurs, est-ce qu'ils sont vraiment suffisamment pris en charge pour éviter qu'ils ne puissent être eux-mêmes, qu'ils puissent se servir à l'hôtel, comme on dit, qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Gabriel de Colésie, hein, pour lui aussi, il voudrait que dans les mesures, vous puissiez aussi impliquer les autorités traditionnelles qui gèrent les communautés, là où se trouvent les réserves, puisque des caminats, lui aussi s'inquiète du cas du chinois. Il fallait un procès pour remonter la filière jusqu'à celui qui est en train de délivrer tout cela. Des pôles de Kinshasa, c'est la même chose. Et puis Jacques de Badolité, lui, souhaite que la population soit sensibilisée parce que c'est elle qui vit de la forêt. Il faut aussi la sensibilisation.
Bien, merci beaucoup. Je suis satisfait de voir que les auditeurs sont accrochés à cette question. Notre ami Jean-Claude a également fait une jonction avec le tourisme. Effectivement, il a raison parce que tout le travail de base que nous faisons aujourd'hui pour sécuriser cet environnement, pour lui redonner un caractère commercial, est justement axé pour attirer les touristes. Aujourd'hui, quand vous allez du côté de Goma, il y a un retour évident des touristes. Il y a de plus en plus de gens qui ont comme destination notre pays parce que le travail de base est un peu nécessaire. Quand il pose la question de savoir s'ils sont
suffisamment, les gardes-parcs, les agents des lycées, tous ceux qui gèrent le secteur, est-ce qu'ils sont suffisamment pris en charge pour éviter qu'ils ne se servent à l'hôtel eux-mêmes aussi?
Je vais vous dire et je vais vous rassurer que le travail, l'effort que nous faisons aujourd'hui avec le concours de nos partenaires, c'est de retrouver un certain équilibre en termes de rémunération. Et cela se traduit par des primes que nos partenaires octroient aux éco-gardes sur le terrain. Donc nous faisons un effort pour les mettre à l'abri C'est ainsi que vous voyez de manière continue ces hommes se battre jusqu'au sacrifice suprême. Parce que nous faisons cet effort-là au niveau de l'ICCN, au niveau du gouvernement, pour associer nos partenaires et arriver à leur obtenir des prix.
Mmh.
Donc, de ce côté-là, on fait cet effort-là. Mais lorsque on demande d'impliquer les autorités coutumières, c'est évident. Dès le départ, je vous ai dit qu'en termes de canalisation d'informations, il y a une association de différents services de l'État, mais également de la population autochtone. Les chefs coutumiers sont associés à la recherche de l'information des différentes activités des braconniers. Donc, nous prenons cela, c'est quelque chose qui est fondamental. Vous ne pouvez pas opérer sans le concours de ces personnes-là.
Mmh. Mais l'étude de notre ami des Badolites, il dit que beaucoup de ceux qui sont dans ce village vivent à 80% de la forêt. Il faudrait-il aussi d'autres mesures si on leur dit de ne pas décimer les espèces rares, mais aussi leur présenter l'autre moyen de survie. Est-ce que c'est prévu aussi dans le programme que vous avez?
Absolument. Mais je voudrais rassurer Jacques que la consommation de ces populations-là ne représente pas un danger. Vous avez, mais quand vous voyez des gens abattre 15, 30, 40 éléphants comme vous l'évoquez, qui va manger ces jeunes personnes?
Le souci, c'est de prendre les ivoires et laisser la bête courir.
Donc, l'activité des populations ne constitue pas une menace. Mais lorsque l'activité des populations constitue une menace, aujourd'hui, nous sommes en train de proposer une activité de substitution.
Mm-hmm.
Leur donner des moyens pour faire de l'élevage, etc. D'autres activités. Nous sommes en train de mettre petit à petit ce programme en place. Et donc, nous allons encadrer cette population pour qu'elle participe activement à la protection de ces espèces.
Voilà. Il y a Dr. Samuel qui nous appelle de Béni, au Vicente Takindou. On va vous prendre tout de suite.
Chaque samedi à 8h30, Radio Tapi vous offre le survol de toute l'actualité économique de la semaine dans Panorama économique. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'impact des décisions diverses sur la vie économique, c'est Panorama économique. Chaque samedi à 8h30, Panorama économique sur Radio Tapi pour anticiper les mauvaises surprises et profiter de bonnes occasions.
081-893-15-PA@radiocapi.net, c'est le numéro de contact et l'adresse email. Si vous avez besoin de donner votre point de vue sur la protection des espèces rares en RDC qui sont dans les différents parcs nationaux que nous avons, qui sont considérés comme les patrimoines communs à l'humanité, vous pouvez aussi donner votre point de vue et donner aussi votre témoignage et ce qu'il faut faire. Nous en parlons avec vos fidèles auditeurs de Radio Capi. Nous recevons dans ce studio Monsieur Désiré Louhaï, vous êtes le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement et Conservation de la Nature. Vos points d'opposition sont les bienvenus dans cette émission. Docteur Samuel, vous êtes à Béni, dans la province du Nord Kivu. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le président.
Vous avez suivi presque 30 minutes depuis le début de cette émission les propositions des différents auditeurs. Hein. Vous aussi, vous avez votre contribution sur ce qu'il faut faire par rapport à la protection des espèces rares. On vous écoute.
Oui, c'est ça, monsieur le général, comme vous venez de me dire, comme les autres l'ont déjà suggéré. Moi, mon souci, c'est que je demanderai des propositions au niveau de l'État. Mm-hmm. C'est que l'État puisse un peu renforcer les niveaux éducationnels, donc au niveau de l'enseignement, pour qu'on puisse enseigner les élèves, s'ils sont par exemple à l'école primaire ou à l'école secondaire, qu'on puisse leur apprendre la nécessité de nos patrimoines,
mm-hmm.
La nécessité de nos espèces qui sont rares. Puisque à partir de cette formation-là, on n'aurait pas vraiment des gens là qu'on les appelle des braconniers, puisque c'est peut-être à cause de la non-connaissance de l'importance de l'espèce qui nous envoie peut-être à battre des animaux qui sont très, très importants pour la société congolaise.
Mmh.
Et puis je demanderais aussi à l'État de doter vraiment les structures qui sont spécialisées, hein, des moyens pour qu'ils puissent assurer une meilleure protection de ces espèces-là. Et puis autre chose, La participation du peuple autochtone, puisque moi qui vous parle ici, je suis médecin qui dit, donc il faut aussi qu'on puisse, à un moment donné, on puisse aussi intégrer le peuple qui dit
dans cette protection-là. Puisque vous savez très bien, monsieur le journaliste, nous savons tout ce qui est la forêt. Et nous savons comment est-ce qu'on peut démarcher dans la forêt, qu'est-ce qu'on peut faire dans la forêt. Mais à partir de cette figure, on peut aussi avoir une meilleure protection. Puisqu'à partir aussi de ces figures-là, on peut trouver des découvertes d'autres espèces qui n'ont jamais été recensées, par exemple. Au lieu de dénoncer les hommes où c'est capturé, peut-être tous ces braconniers-là, vous voyez que ça sera une meilleure contribution. Vous voyez, par exemple, au niveau des parcs, de réserves de poules.
Mm-hmm.
Je vis là certains poules qui sont là-bas, qui sont après, qui sont quand même encadrés, qui sont en train alors de ce sont ceux qui cherchent la nourriture pour les locataires qui se retrouvent au niveau de poules. Ce ne sont pas les potes qui vont chercher ces nourritures-là pour les okapis.
Pour les okapis qui sont dans la réserve des Koulous. Merci, docteur Samuel. Vous-même, vous êtes de la communauté des peuples Kigwe, c'est ça?
Oui, c'est ça, monsieur le journaliste.
Voilà, vous proposez vraiment qu'on puisse les intégrer dans cette protection. Votre invité a suivi. Nous allons prendre Augustin qui est à Kindou. Augustin, bonjour. Augustin, votre ligne a des problèmes. Vous êtes apparemment la ligne a des problèmes. Augustin, maintenant ça va? Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute quand même. Vous êtes à Kindou, dans le Maniema. Quel est votre point de vue par rapport à tout ce qui a été dit depuis le début de cette émission?
Oui, depuis le début de l'émission, j'ai tout suivi. Je souhaite m'en dire une chose. Dans les temps anciens, il y avait des animaux qu'on appelait des espèces rares.
Mm-hmm.
Mais au Maniema, par exemple, l'éléphant n'était pas une espèce rare.
Mm-hmm.
Et quand on est que quand je grandissais à Kindou, j'étais enfant, on mangeait presque chaque jour la viande de l'éléphant.
Mm-hmm.
Mais actuellement, je viens de faire 3 ans à Kindou, je n'ai jamais mangé une viande de l'éléphant. Ça devient une espèce rare. Pourquoi? Parce que l'éléphant de l'éléphant n'a pas de moyens pour se regarder les espèces rares.
Mm-hmm.
Or, si une fois notre gouvernement va baisser les moyens au ministère de l'Environnement, mais vous allez voir les mêmes personnes qui vont travailler dans ce ministère, ils vont encore se mettre à détourner ces moyens qu'on va leur octroyer. Donc, notre pays a besoin de jeunes qui ont la bonne volonté,
mmh.
et le vrai patriote, ce n'est pas seulement d'être chanté le patriotisme dans la bouche, et non pas dans les actes et les comportements.
Mmh.
Donc, je dirais que lorsque le ministère de l'Environnement peut avoir les moyens, qu'il y ait un suivi, en fait, que la tolérance zéro puisse
mm-hmm.
commencer aux gens qui ont les moyens. Ce n'est pas parce que cette tolérance zéro va toujours se baser auprès des gens qui n'ont pas de moyens, les pauvres. Il faut suivre les gens qui dirigent le gouvernement, le ministère, comment ils gèrent les moyens, les financements qu'on leur donne pour les biens de fonctionnement de ce ministère.
Mm-hmm.
Alors, pour me résumer,
mm-hmm.
je demanderai tout simplement que le gouvernement soit vraiment responsable en dotant des moyens auprès des différents ministères pour que ce ministère puisse bien fonctionner dans le pays.
Merci, Augustin. Désolé pour vous que vous n'êtes plus à mesure de manger aujourd'hui la viande d'éléphant parce que dans le parc de Kaouzi-Guéga, je crois bien, qui est une partie aussi dans le Maniema, il n'y en a plus aujourd'hui depuis plusieurs années. Vous savez que l'éléphant, c'est un petit par an. Et quand vous en avez beaucoup mangé et qu'il n'y en a plus, il faut vraiment maintenant les conserver pour attendre qu'ils puissent se multiplier encore. Merci, Augustin, pour ce témoignage. À vous, il y a Serge qui est en ligne. Serge, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Serge.
On vous écoute, Serge.
Oui, en fait, évidemment, je remercie d'abord de cette opportunité que vous offrez sur la radio Capi.
Mmh.
En fait, monsieur Pierrot, je pense que vous comprenez qu'aujourd'hui, le phénomène, donc, d'intervention de nos espèces d'animaux, de céréales, est en train, donc, de pas venir à l'île à ce équipement dans notre pays. Mais alors, nous tous, nous devons chercher à donc, des moyens pour décarter cette situation de façon la plus adéquate possible. Je pense, à mon sens, aujourd'hui, s'il faut arriver à protéger nos espèces rares du parc et aussi dans certaines heures, il faut simplement procéder à certaines mesures coercitives ou certaines mesures punitives à tout cela qui sont en train de de faire appliquer ces effets qui disparaissent au niveau des marques. Et je pense aussi à les ministères de l'Environnement, à travers les discussions, et remercier le conseil de la matière, d'aider aussi à se battre, donc prendre au moins, à faire toutes ces préoccupations, pour au moins aussi à éviter à ce qu'aujourd'hui, dans le sens rare, puisse aussi rester d'adéquat et non pas à ce que nous sommes en train d'assister avec le journaliste qu'on a raconté au niveau de la radio. Il y a eu plusieurs colis au niveau comme état donc de l'ivoire qui ont été pris au niveau de la réconciliation, qui est en train de terminer notre image sur le chiquier international, international, mais nous devons faire de contenir pour que cette situation puisse être écartée le plus rapidement possible.
Merci Serge. Il faut des mesures punitives hein, pour ceux qui se livrent à des actes comme ça. Nous restons du côté de l'Est de la RDC, et cette fois c'est à Béni, au nord Kivu Katembo. Vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Est-ce que vous avez aussi des témoignages par rapport à une espèce que vous avez vue disparaître du côté de nord Kivu?
Oui, en tout cas, à côté du nord Kivu, c'est les cartons, en tout cas, ça ne va pas, ça ne va pas. Puisque nous, nous vivons à côté du parc.
De quel parc?
Là, il n'y a pas. Oui.
Vous êtes à côté de quel parc?
Parc de Virunga, parc national de Virunga.
Qu'est-ce qui se passe alors, Katembo?
Oui, ce que je veux vous dire, en tout cas, il n'y a rien, il n'y a rien. Pourquoi? Puisque ceux qui font la sensibilisation, ils ont indoctriné la population. Dans quel sens? Par exemple, quand on parlait à enseigner à la population riveraine du parc, que le parc appartient, n'appartient pas aux Congolais, appartient aux Blancs. Vous pensez que la population aura souhait de garder ce parc-là?
Attends.
En deuxième position.
Ah.
Oui.
Qu'est-ce qu'on dit? Quand on vous dit que le parc appartient aux Blancs, ça veut dire quoi, Katembo? Justement, qu'est-ce qu'on veut vous dire par là?
Oui. Puisque la population riveraine du parc n'a pas beaucoup étudié, alors les aéroports se disent non, le parc est déjà cédé, le parc n'est pas pour les Congolais. Pas pour un village, quand tu me dis que la paix ne lui appartient pas, là tu viens d'ouvrir un front, c'est la guerre avec lui. À deuxième position, le retombé même du parc, la population riveraine ne voit pas le retombé du parc. Comment ils vont garder ce parc-là? À troisième position, si vous avez votre visite là-bas, vous lui demander si seulement la ville de Béni est à combien de kilomètres du parc. Vous allez voir qu'ici, il y a une population galopante, cultivatrice, à côté du parc. Et ils ont besoin de chats. Comment vous gardez? En quatrième position, ceux qui sont censés garder le parc même, eux aussi. Mais c'est une faille à leur mission.
Voilà.
Alors, par contre,
Terminez par là, Katembo.
Oui?
Je vous demande de terminer par là, parce qu'il y a d'autres auditeurs qui sont en ligne. On vous écoute.
Ok, bon, merci. Par conséquent, il faut des mesures énergétiques, surtout éviter la population et leur faire le retomber du parc. Peut-être on a des situations de compter.
Merci, Katembo. C'est la désinformation dans le parc de Virunga. Il y a une désinformation qui fait à ce que les gens ne se sentent pas vraiment responsables du parc et de leurs biens. C'est ainsi qu'ils pensent dessiner cela. Monsieur Désiré, vous avez suivi les auditeurs avec leurs inquiétudes, mais l'état de Béni, vous allez bien sûr répondre aux autres aussi, mais l'état de Béni, c'est par rapport à la désinformation et la gestion des retombées. Si on peut dire aux gens de garder les parcs, mais autant d'années, ils n'ont pas des dividendes, ils ne voient pas les retombées de cela, ils vont croire comme si on leur demande de garder quelque chose pour lequel ils ne vont rien gagner, et ils peuvent aussi se livrer à des actes qui nous déplorons.
C'est exact. Nous avons suivi de près les activités de certains leaders politiques du coin qui ont fait des promesses électorales aux populations sans savoir quelles sont les conséquences de leurs propos. Ils promettent des terres aux populations dans les parcs, ce qui est vraiment inadmissible, et nous avons toujours attiré l'attention des leaders politiques par rapport à leurs propos. Il est vrai que le recours à des ressources extérieures constitue à ce jour un espoir. Nous allons, comme vous le savez, nous avons plusieurs projets qui sont financés par plusieurs structures internationales, plusieurs partenaires, qui nous accompagnent dans la réhabilitation de ces aires protégées. Et le ministre de l'Environnement qui fait de manière continue des tournées sur terrain a exigé au cours d'une réunion il y a quelques jours que dans chaque projet, que le volet social occupe au moins 15% du projet. Ça veut dire que désormais, le volet social autour des activités dans les parcs, aux environs des parcs, le volet social sera mis en exergue pour justement permettre à cette population de voir de manière directe que la protection des aires protégées est rentable pour elle et qu'elle trouve son intérêt dans un premier temps. Parce que lorsque les touristes vont commencer à venir, vous pensez qui va gagner sur cette activité? Ce sont les populations. On va engager les enfants qui vont travailler dans des structures d'accueil, qui vont travailler dans des activités commerciales, qui vont fournir des souvenirs, etc. Donc, l'activité touristique va engendrer des effets d'enterrement clairs et nets pour les populations.
Et là, il a aussi posé le problème du boom démographique avec l'augmentation de la population, par exemple, à Béni, qui est pas loin du parc des Virunga. Mm-hmm. Au fur et à mesure que toutes les populations qui entourent le parc augmentent en nombre, mm-hmm. il va se poser aussi un problème d'approvisionnement. S'il n'y a pas de mesures, il risque de se rabattre alors sur les réserves.
C'est exact. C'est comme ça que tout à l'heure, je vous ai parlé des mesures de substitution.
Mm-hmm.
Nous sommes justement dans cette phase où les anticipations sont devenues aujourd'hui notre préoccupation majeure. Ce sont nos préoccupations majeures. Nous canalisons aujourd'hui les activités des populations vers des activités de substitution, élevage, son, etc. Mais en dehors des aires protégées.
Mmh.
En fait, aujourd'hui, ce que moi j'aurais aimé souligner ici par rapport à la protection des espèces rares, c'est que il y a des mécanismes qui sont mis en place au niveau du gouvernement. Vous verrez des patrouilles mixtes, SARDC, éco-garde de l'ICCN,
mm-hmm.
auxquelles s'associe des fois même la MONUC lorsqu'il y a eu des massacres des gorilles, vous avez vu cela. Donc, il y a même au niveau de l'Est une coopération transfrontalière avec le Rwanda, l'Ouganda, pour justement assurer de plus en plus la sécurité de ces espèces. Donc, il est clair que le fait qu'on ne perçoive pas encore l'effort qui est déployé mm-hmm. au niveau de nos structures, et je suis satisfait que la population puisse réagir de cette manière,
mm-hmm.
mais elle doit savoir que sur terrain, les choses sont en train de se déployer pour récupérer la situation totalement dégradée qui a évalué pendant une dizaine d'années.
Voilà. Espoir, vous êtes à Ouvira, Senga, vous êtes à Kambove, au Katanga. On vous prend tout de suite.
Parole aux auditeurs.
Espoir, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Espoir. Hein, votre contribution, votre proposition hein, par rapport à la protection des espèces rares, il y a aussi les aires protégées, tout cela, on en parle dans cette émission. Quel est votre point de vue? Vous êtes à ouvrir aussi que vous.
Oui, moi je voulais tout d'abord corriger. Je suis à Kiliba, c'est dans le territoire d'Ouvira.
Kiliba, c'est une localité dans le territoire d'Ouvira, Ouvira qui est dans oui. la province du Sud-Kivu, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Merci, on vous écoute maintenant.
Okay. Ma contribution est celle-ci. Concernant la conservation de la nature,
mm-hmm.
je vois que si les espèces sont en train de disparaître dans nos parcs, la population contribue aussi. Parce que si vous regardez dans les parcs, il y a des gens qui entrent là pour abattre donc la forêt est menacée. Et quand la forêt est menacée, vous verrez que les animaux qui y vivaient commencent à fuir pour chercher là où la forêt est encore meilleure, là où ils vont trouver une meilleure vie.
Mmh.
Ce que j'ai aussi constaté à l'école, quand on nous enseigne à l'école, on ne nous a jamais dit que les parcs de la RDC souffrent, les animaux sont en train de disparaître. Là, on montre tout simplement qu'il y a des animaux, nous sommes riches en quoi
Et c'est pourquoi je voulais demander à notre invité là-bas, pourquoi, ou bien, pourquoi on ne nous enseigne pas, on ne nous dit pas qu'il y a de tels animaux qui sont en train de disparaître, mais on nous dit tout simplement que nous sommes riches, riches dans ces animaux.
Voilà, et d'ailleurs, Espoir, c'était aussi la préoccupation de, je crois bien, de docteur Samuel de Béni, qui a pensé qu'il faudrait adapter l'enseignement aux besoins par rapport à tout cela, enseigner aujourd'hui à l'école, que les enfants déjà partis de l'école puissent savoir qu'il y a de, nous avons des animaux, la RDC est riche, mais leur apprendre aussi quels sont les animaux qui sont menacés et comment il faut les protéger. Merci beaucoup, Espoir, de cette proposition. Et c'est à vous, vous êtes à Kambo, au Katanga. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Ma contribution est celle-ci. Moi, je pense que le directeur du cabinet qui est là, heureusement, il est du ministère, ils doivent, en tant que gouvernement, multiplier ces investissements au niveau de la protection. Parce que quand vous voyez la protection même, les gardes de chasse qui sont affectés dans nos parcs nationaux, alors, ils ne sont pas parfois suffisants, ils n'ont même pas suffisamment de moyens pour pouvoir couvrir les parcs nationaux. Alors que nos parcs nationaux sont des grandes étendues qui demandent beaucoup de moyens et du personnel aussi. Mais sans suffisamment de personnel, comment voulez-vous que la protection soit bonne? C'est difficile. Une deuxième préoccupation, mais ces gardes de chasse, ils sont payés comment? Quelles sont les conditions de ces gardes de chasse pour refuser, par exemple, dans leur temps, quelque chose comme corruption, etc., moyen d'argent, etc. Moi, je pense que le gouvernement doit faire ça.
Ah, voilà. Et là, la ligne de Saint-Gervais s'est détériorée pendant qu'il était en train d'évoquer la prise en charge de garde. Voilà, merci Senga. Vers la fin de votre propos, la ligne a posé des problèmes. On revient à M. Désiré. Vous venez de suivre Espoir et Senga, mais auparavant, c'est le docteur Samuel aussi qui avait évoqué le problème de l'éducation, d'adaptation même de l'éducation aujourd'hui. Il ne suffit pas seulement de dire aux élèves, comme on le voit dans les livres, la RDC est riche, nous avons des parcs nationaux qui ont des animaux, mais il faut aussi insérer les volets déjà protection dans la tête, comme ça les gens grandissent avec cette idée-là dans la sensibilisation. Et bon, Senga lui revient sur ce que les autres ont déjà évoqué, hein, c'est assez de moyens qu'il faut mettre dans la protection. Et Espoir parle de l'exploitation forestière, parce que on a vu avec le parc des Virunga, si les gorilles de montagne ont pu fuir pour se retrouver de l'autre côté au Rwanda, c'est parce que l'habitat a été aussi détruit par l'exploitation forestière.
Merci beaucoup. C'est une question globale. Ok, donc s'agissant des conditions dans lesquelles opèrent les éco-gardes.
Les éco-gardes.
Une des préoccupations majeures du ministère aujourd'hui, c'est le renforcement des capacités de ces éco-gardes. Ils subissent des formations aujourd'hui encadrées par les éléments des FARDC et d'autres partenaires. Nous en envoyons tout plein dans des pays outillés comme la Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Cameroun, pour qu'ils subissent, qu'ils soient mis à jour en termes de formation. Et surtout, nous sommes en pourparlers avec la défense nationale pour renforcer leur capacité de riposte, pour qu'ils puissent avoir une puissance de feu capable de réagir par rapport à celle utilisée par les braconniers. Donc, de ce côté-là, nous sommes conscients qu'après plusieurs années d'incertitude, aujourd'hui, la démarche du ministre Ndungu est que ces structures soient à mesure d'assurer correctement.
Mais là, il faut aussi penser en termes de nombre, hein, vu la superficie, bien sûr, de nos parcs, il faut aussi penser à augmenter en principe aussi le nombre.
C'est certain. L'essentiel des éco-gardes, ils ont vieilli. Il faut renouveler cette toute une action globale. Vous pensez, il y a un ami qui a parlé ici de la menace sur la forêt. Je ne citerai pas, mais je vous dirai qu'il y a des pays qui ne coupent pas, mais qui ont du charbon. Ils ne coupent pas les bois, ils ont du charbon. mais ils acceptent et ça avance. Vous comprenez? Et donc aujourd'hui, le combat, c'est justement de faire comprendre et de faire changer cette tendance pour que désormais, Congolais et Congolaises, nous puissions prendre conscience.
Voilà. Et permettez que nous puissions prendre le dernier auditeur pour cette première partie, parce qu'on va se retrouver après le flash d'information pour clôturer l'émission. Et la réponse par rapport à l'éducation, on va insérer ça dans la deuxième partie. Mm-hmm. Mais prenons d'abord Désiré qui est à Bénéonor. Si vous désirez, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour, la radio Patrice.
Vous avez une minute et demie, parce que tout de suite là, c'est le flash d'information, on vous écoute.
Ok, merci. Alors, je voulais intervenir par rapport à l'encadrement des jeunes de la population.
Mm-hmm.
Moi, je dirais que, vous voyez combien de fois la population n'a pas de job, n'a pas de travail,
Désiré, déplacez-vous un peu rapidement pour que vous puissiez bien, qu'on puisse bien vous suivre sur les antennes là. Peut-être qu'il y a des problèmes sur votre ligne, allez-y rapidement. Voilà, ça se détériore de plus en plus. Mais dis-moi, quelques briques de mots que nous avons suivies Désiré, vous préconisez l'encadrement des jeunes, hein, parce qu'il n'y a pas assez d'emplois, les jeunes n'ont rien à faire dans les territoires qui sont à côté de parcs. Vous vous rendez compte que le fait que les jeunes ne sont pas occupés, cela peut aussi les amener à se lancer dans les activités de braconnage. Monsieur Désiré, juste 20 secondes, parce qu'on va suivre les bulletins d'information, par rapport à ce volet sur l'encadrement de jeunes, hein, le manque d'emploi dans ce milieu-là. 10 secondes.
Il a raison, mais ce qu'il doit savoir, c'est qu'une protection aujourd'hui va générer des emplois importants dans les jours qui viennent.
Mmh.
Parce que nous allons attirer énormément de
touristes.
Et donc, ça va générer des emplois, voilà. Des activités importantes.
Merci à tous les auditeurs et à vous-même. Merci pour ce flash info de Radio Capi. On revient dans Parole aux auditeurs qui s'épanchent aujourd'hui sur la protection des espèces rares, hein, qui sont ces animaux. Et dans les parcs nationaux de la RDC, les éléphants, les rhinocéros blancs, les chimpanzés, hein, appelés communément bonobos, les gorilles de montagne, les gorilles des plaines, l'okapi et toutes ces autres bêtes, hein, qui sont considérées aujourd'hui comme les patrimoines communs à l'humanité. Nous parlons de leur protection. La dernière partie de l'émission, vous êtes très nombreux comme Kalao, Kitakimbu qui nous appelle. Kalao, avant de vous donner la parole, nous allons demander à M. Désiré Louaï, le directeur de cabinet du ministère du ministre de l'Environnement et Conservation de la Nature. Il y a deux auditeurs qui ont posé le problème de l'intégration du volet protection de ces espèces rares, de tout ce qui est comme faune et flore dans l'éducation nationale aujourd'hui. Ce n'est pas seulement dire aux enfants, nous en avons, mais aussi déjà leur apprendre à protéger ça dès l'école primaire.
C'est fondamental. Je me souviens, quand on était jeune, ailleurs, lorsque nous allions nous promener, on nous apprenait, voilà, ceci, il ne faut pas toucher, quand tu es seul, tu ne coupes pas cette feuille. Et aujourd'hui, je peux vous assurer à nouveau qu'il y a tout un programme qui se met en place entre l'environnement, les PSP et l'enseignement supérieur universitaire. Donc, je crois que vous avez eu plusieurs fois, nous avons été avec le ministre Machako, le ministre Ndoulou, tout ça, pour leur permettre de commencer à asseoir cette collaboration pour que la matière environnementale devienne une matière prioritaire dans ce pays.
Voilà, ça veut dire qu'il faut vraiment l'adapter aux réalités, hein, pour que déjà dès l'enfance, l'enfant puisse comprendre l'importance de cela. Kalao, vous êtes à Kindu Maniema, bonjour.
Bonjour Radio Capi.
Nous allons déjà, nous tendons vers la fin de l'émission, on vous écoute, surtout en ce qui concerne les propositions pour protéger les espèces rares.
Bon, moi je voulais juste intervenir concernant cette protection des espèces rares. Bon, il y a un problème qui se pose ici chez nous au Maniema. Il y a un parc qui vient d'être créé, je ne sais pas si vous êtes aussi au courant.
Le nom du
parc. TSD, soit par l'Alaba et l'Omani. Mais ce parc qui vient d'être créé, nous ne savons pas. La population maintenant commence à souffrir suite à la carence animale. Et les espèces protégées et les espèces non protégées, tous sont suspendu. On n'autorise à personne de tuer, ni l'animal qui est protégé, ni ceux qui n'étaient pas protégés. Nous ne savons pas les pourquoi. Alors, la question, je vais demander à notre invité si ce parc-là, c'est le programme du gouvernement ou c'est l'ONGD que nous voyons ici qui est le responsable de ce parc ou c'est le génie qui est prévu qui sera. Cet argent qui sera récolté après quand les visiteurs viendront visiter notre parc, cet argent ira dans les caisses de l'État ou dans les caisses de ces ONGD là. Maintenant, la population commence à souffrir, manque à manger. Ici à Kindu, pour le moment, nous achetons les Thomson, un Thomson à 600 francs. Aux arrêts que les ONGD nous ont amenés à arrêter les gens qui nous amènent des viandes. Voilà une
question. Merci, Kalao. Juste alors, officiellement, je crois dans le repérateur que moi je possède, le Manim a fait une partie du parc national des Kaouzi-Béga. Monsieur Désiré, vous avez suivi cette inquiétude de notre ami de Manima. Est-ce que vous êtes au courant de cette organisation au niveau de Manima? Il parle de là-bas, voilà. Cette réserve, vous en savez quelque chose?
La PL2, c'est une zone extrêmement riche en biodiversité, qui fait l'objet d'études assez poussées de la part des grands spécialistes, le docteur Hart et autres, qui sont là sur le terrain, qui sont en train de confirmer la valeur exceptionnelle de cet espace. Et donc, nous attendons les rapports conséquents pour pouvoir prendre ces décisions qui s'imposent, mais nous savons que plusieurs partenaires appuient l'idée, parce que je peux vous rassurer que dernièrement, nous avons eu l'information que l'on a découvert des espèces de primates qui n'avaient jamais encore été vues du Parlement.
Dans cet
espace-là. Donc c'est vraiment un espace extrêmement riche en biodiversité qui, je crois, appelle qu'elle soit protégée très rapidement.
Et ça prend la province de Maniema, et est-ce que ça prend aussi d'autres provinces à côté ou
simplement de Maniema? Ça remonte du côté du Sankourou, au Kassaï, et de la province orientale.
Voilà, nous avons aussi, pour terminer cette émission, nous avons trois mails des auditeurs qui nous ont écrit par Internet, bien sûr. Il y a Liv Longolo qui habite Chicago aux États-Unis dit ceci: j'ai capté Radio Capri 5 sur 5 sur mon cell phone. Ma contribution d'abord, conscientiser la population sur l'importance et les rôles des espèces rares. Mais Monsieur Eric Nengele qui nous écrit depuis New Delhi en Inde dit ceci: ma question est de savoir pourquoi le gouvernement congolais ne veut pas profiter des espèces rares de la nation comme les autres pays du monde. Ici en Inde, ils en manquent pour preuve, ils voyagent partout pour chercher comment enrichir leur nation et tout est qui veut visiter pays suite que l'argent entre dans la caisse de l'État, qu'est-ce que le gouvernement pense? Qu'est-ce que le gouvernement pense de cette situation? Et enfin, Pierre Dinga, depuis Lubumbashi au Katanga, il est à Fungourou, mais il dit ceci: je voudrais savoir ces Chinois qui étaient arrêtés à l'aéroport d'Indili venaient d'où, de quelles réserves, par quels moyens a-t-il eu tout cela et quelle est la main qui est derrière cet homme? Nous terminons par là, monsieur Désiré Loaï, on vous donne la parole dans deux minutes pour répondre à ces quelques préoccupations et surtout pour clôturer cette émission.
Très bien, merci beaucoup. Je voudrais rassurer les différents intervenants dans les mails pour leur dire que celui qui en Inde, c'est vrai. Nous, notre souci, c'est d'abord de réhabiliter la gestion de nos aires protégées pour attirer un maximum de monde possible pour qu'ils viennent voir ce que nous avons de plus beau en fait, notre environnement, notre biodiversité qui est exceptionnelle. Nous allons nous y employer parce que il est clair aujourd'hui que le gouvernement va doter l'ICCN de moyens humains, de moyens techniques pour qu'il puisse assurer sa mission, parce que nous sommes parmi les cinq plusieurs en matière de biodiversité.
Mmh.
Et donc, nous sommes conscients que demain, notre pays pourra vivre des retombées de la gestion heureuse de cette biodiversité.
Mais par rapport à l'espace de Maniema de tout à l'heure, est-ce que c'est vrai qu'on a interdit à la population d'accéder dans cette espace pendant cette période des études?
Je ne peux pas croire cela parce qu'il n'y a aucun acte réglementaire qui crée à ce jour cette aire protégée, mais nous savons que la plupart des chefs traditionnels qui ont été approchés soutiennent le projet.
Mmh.
Et donc, sensibilise déjà ces populations parce que lorsqu'on me parle du Thompson qui vaut, on ne trouve pas le Thompson.
Il veut dire que les retombées des interdictions, c'est que le chinchard qui sont sur le marché coûte maintenant cher parce que les gens n'ont pas autre chose à manger que cela. Oui.
Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que si nous voulons que demain cet espace rapporte énormément à la population qui vit dans les alentours et à notre province du Maniema, il faut qu'aujourd'hui nous puissions déjà comprendre l'importance de cet espace. Il ne s'agit pas de manger des bonobos pour le principe que j'aime bien manger les bonobos, non. Il faut comprendre que demain, ces bonobos vont rapporter énormément plus à ceux qu'ils auront protégés. C'est ça qu'il faut aujourd'hui comprendre.
Voilà, merci beaucoup monsieur Désiré Louari. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur du cabinet du ministre de l'Environnement et Conservation de la Nature. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Je vous remercie pour m'avoir invité et surtout pour avoir appréhendé que notre population est consciente que les questions environnementales aujourd'hui sont devenues des questions prioritaires. Ça nous rassure, je pense que le travail qui s'est fait va continuer pour que, ensemble, nous puissions amener l'environnement à un niveau maximal.
Et merci également à tous les auditeurs, vous avez été très nombreux à réagir. Et ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion de passer sur les antennes, nous vous disons tous merci.
Allô? Oui. Il ne répond pas.
On ne pourra vous répondre parce que c'est la fin de l'émission Parole aux auditeurs. On se retrouve demain jeudi à 11h03 dans le cadre de nos émissions consacrées à la sensibilisation sous la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU. Et cette fois, nous parlons de la femme, la sécurité et la paix. Une seule question pour l'émission de demain. Quel rôle doit jouer la femme dans le rétablissement de la paix et la sécurité en RDC? Soyez nombreux à réagir en envoyant vos mails à pa@radiookapi.net. Cette émission a été réalisée par Kikim Poutou, assistée de Belia Matinga, et Jean-Claude Siala était à la mise en onde, sans oublier Nicole Ngata qui l'a supervisé. Elle est sur www.radiookapi.net et ce soir, vous allez la retrouver à 20h, heure de Kinshasa, 21h à l'est et au centre du pays. Mais je vous demande de ne pas quitter ni vous déplacer parce que tout de suite, vous allez suivre la conférence des presse hebdomadaire de la MONUSCO qui est conjointement animée par M. Manu Diomounouba, le porte-parole de la MONUSCO, et le général Babacar Gaye, le commandant des portes de la MONUSCO. Merci à tous et au revoir.